Chapitre 7. 20 jours plus tard. Le tailleur avait confectionné à Michel deux élégants costumes de velours, ainsi que des chemises blanches qui lui donnaient des airs de fils de bonne famille. Ses cheveux blonds, coupés par un coiffeur, retombaient en boucles souples sur ses épaules. Planté sur la scène, il prit la pose, face à Molière. Le comédien lui avait demandé d'apprendre un court passage d'une de ses pièces. Michel possédait une mémoire exceptionnelle. Après 3 lectures à peine, il maîtrisait son texte, ce qui laissa son maître tout ébahi. Hélas, son interprétation l'enthousiasma beaucoup moins. Il devait jouer un jeune seigneur ennuyé par un fâcheux, un casse-pied qui ne le lâchait pas d'une semaine. Il se lança pour la 3e fois. « Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né, pour être de fâcheux toujours assassiné ?»« Non, non, non !» s'écria Molière. En un quart d'heure, Michel n'avait pu réciter plus de 8 vers d'affilée. Rien n'allait jamais. Il soupira et attendit les explications de son professeur. « Tu déclames comme au théâtre du Marais ou à celui de l'hôtel de Bourgogne » jeta-t-il. « Mais s'indigna Michel, ma mère récitait les vers ainsi. Elle possédait une diction parfaite. Elle épelait presque les mots en articulant et en roulant les airs. » Oui, car la baronne jouait pour les prétentieux de ces 2 temples des belles lettres. Ces mots étaient emplis de mépris. Pour être de fâcheux toujours assassiné, se moqua-t-il ensuite. Seuls les vieux croutons apprécient encore ce genre de déclamation. Ici, nous jouons vrai. Il te faut réciter les vers comme si c'était de la prose, avec simplicité. Mais insista Michel, même la raisin voulait. Cesse donc avec ta raisin, elle te faisait singer les adultes. Alors pourquoi écrit-on des pièces en vers? La question était loin d'être sotte. Molière resta un instant la bouche ouverte avant de répondre. « Parce que c'est d'usage. L'amateur d'Alexandrin suivra la cadence. Quant aux moins instruits, ils écouteront le sens des mots et se moqueront que cela soit écrit en poésie. » Michel hocha la tête. L'explication lui convenait. Molière avait certainement raison. « Reprends. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné ?»« Non, tu dois être exaspéré. » Ce fâcheux gâche ta journée, il t'importune, clame-le haut et fort, serre les poings, grimace, en prose s'il te plaît. Michel prit une respiration. Puisque Molière voulait de la prose et de l'agacement, il allait lui en donner. Sous quel astre, bon Dieu ! S'énerva-t-il. Faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné ? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Voilà qui est mieux, le félicita le comédien. Puis il le serra familièrement contre lui et lui frotta les cheveux de la main tant il était satisfait. Michel se dégagea, un peu gêné, mais rouge de plaisir et ému par ce geste d'affection. « Ce n'est pas mieux, ajouta Molière, c'est beaucoup mieux. Mais prends tout le temps, tout de même le temps de respirer. Maîtriser sa respiration est très important. « Beaucoup mieux !» lança une voix sarcastique depuis le parterre. Il n'y a pas que votre personnage qui soit assassiné. Ces malheureux vers le sont aussi. Par chance, ils n'appartiennent ni à mon ami Jean Racine, ni au grand Pierre Corneille. Ce ne sont que les vôtres. Michel vit Molière s'avancer, main sur les hanches, vers le bord de la Seine. À ses pieds se tenait un vieil homme, petit et gras. Malgré son âge, il était vêtu à la dernière mode et coiffé d'un large chapeau tout emplumé sur une longue perruque bouclée. « Montfleury !» ricana Molière. « Quel mauvais vent vous amène !» Michel lui aussi l'avait reconnu. Il s'agissait du plus célèbre comédien de l'hôtel de Bourgogne, un homme imbu de lui-même qui avait joué avec sa mère. « J'avais fort envie de vous entendre maltraiter des Alexandrins, » persifla l'individu. « Alors je suis entré. » Molière se mit à rire. Il se tourna vers Michel. « Dans ta tirade, tu parlais de fâcheux, et je ne connais pas de fâcheux plus fâcheux que ce monsieur. » « Vous m'honorez, mon cher, » se moqua Montfleury avec une courbette. « En fait, je suis venu rencontrer le jeune baron, et je vous serai obligé de vous mêler de vos affaires pendant que je m'entretiens avec lui. » Puis, s'adressant à Michel, il expliqua. « Ta mère, mon petit, était une comédienne exquise. Tu me parais aussi... »« Beauquel ?» pensa Michel. « Beauquel ?» termina sans surprise Montfleury. Le garçon esquissa un sourire, attendant la suite. « Je t'ai admiré avec la troupe de Mademoiselle Raisin. » Tu déclamais parfaitement, n'en déplaise à ce triste sire qui brille par ses déplorables goûts populaires. Venez-en au fait, le coupa Molière, d'un ton sec. Je ne tolère pas les gens de votre espèce dans ma maison. Michel dressa l'oreille. L'agressivité montait. De quelle espèce d'homme était donc Montfleury pour que Molière, d'ordinaire si calme, se montre si hostile? Tes parents, reprit le visiteur, étaient de bons camarades. À présent qu'ils sont morts, considère-nous comme ta famille. Ta place se trouve parmi nous. Je t'offre un emploi dans mon théâtre. Tu ne saurais rester avec ce monsieur de sinistre réputation qui va gâcher ton talent en t'inculquant ses mauvaises manières. Si l'offre paraissait tentante, le bonhomme se révélait parfaitement détestable. Michel jeta un coup d'œil à Molière. Il avait blêmi sous l'insulte, mais Lagrange entrait à son tour sur scène, sourcils froncés. « Un problème, patron ?» L'esclandre menaçait. Michel s'empressa de lancer avec ce masque d'ange sage dont il savait si bien se servir. « Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je suis très flatté que vous me considériez de votre famille, mais je ne peux quitter monsieur de Molière. Le roi en personne m'a confié à lui. Je ne peux défier sa majesté en haut suivant. » Molière et Lagrange se mirent à sourire, satisfaits de constater que le jeune garçon désirait rester avec eux. « Je crois que l'affaire est entendue, » jeta Molière. Cependant, Montfleury se montra mauvais perdant. « Eh bien, rugit-il, j'irai voir le roi. Sa majesté ne peut laisser un enfant innocent entre les mains d'un mécréant tel que vous. »« Dehors !» cria à son tour Molière. « Vous en repentirez, » menaça-t-il en levant sa canne. « Vous possédez pour le moment l'oreille de sa majesté. Mais n'oubliez pas que la faveur royale passe vite. Je vais m'employer à faire tourner le vent. » Michel rejoindra bientôt les siens. « Dehors !» répéta Molière montrant la porte. L'individu à peine sorti, le comédien sembla se replier sur lui-même. « Ce misérable m'a épuisé, » annonça-t-il à Michel. « Cessons cette leçon. » « Rentrez vous reposer, patron, » lui conseilla Lagrange. « Je m'occuperai de faire préparer la salle. »« Merci, mon ami. » Une quinte de tout le courba en deux. Avant de disparaître derrière le rideau des coulisses, Molière se retourna à l'instant pour lancer au jeune garçon. « Merci d'avoir refusé l'offre de cet hypocrite. »« Tu sais, je ne suis point si mauvais qu'il le dit. » Molière sortit, Lagrange soupira, aussi agacé que soucieux. Puis il siffla entre ses doigts. Aussitôt, deux hommes en chemise vinrent les rejoindre. Cet après-midi, la troupe jouait l'école des femmes, une des dernières pièces de Molière. Si elle remportait du succès auprès du public, elle n'offrait malheureusement plus l'attrait de la nouveauté. Aujourd'hui encore, la salle serait à moitié vide. « Commencez à mettre en place les décors de l'acte 1, » leur ordonna Lagrange. Les machinistes acquiescèrent et partirent chercher de hautes toiles peintes, attachés à de grands cadres de bois, qu'ils firent glisser au sol avant de les fixer dans les cintres. Ils y grimpèrent avec l'agilité de marins dans la voilure d'un navire. Michel, tout en admirant leur force et leur dextérité, lança aux comédiens. « Monsieur de Molière et Montfleury ne s'apprécient guère. » Lagrange laissa échapper un rire. « Ah ça, tu peux le dire. Je ne connais pas de pire punaise que Montfleury. Méchant comme une teigne, gonflé d'orgueil, cet homme est une calamité. » Il semblait menacer monsieur de Molière. Pourtant, celui-ci est la gentillesse même. Posséderait-il des ennemis? Des ennemis, reprit Lagrange hilar. Tu veux plaisanter? Tu n'as donc jamais vu de pièces de Molière? Michel baissa le nez. Il devait être certainement le seul à Paris, à part quelques bigotes et quelques infirmes moribonds, à n'être jamais allé écouter la troupe du roi. Vous avez vu juste, monsieur Lagrange, soupira-t-il. « Hormis les farces de la raisin et les tragédies que jouait ma mère, je ne connais rien au monde du théâtre. » Il s'arrêta avant de poursuivre avec un certain aplomb. « Cela a parfois du bon de ne rien savoir, car on voit les choses avec plus de recul. » Lagrange cessa aussitôt de rire. Les mots du garçon étaient empreints de bon sens. Le comédien se racla la gorge et expliqua. Molière, dans ses comédies, a l'art et la manière de montrer les faiblesses des gens. Il tourne en ridicule les bassesses et la bêtise. De telle façon qu'après avoir subi une de ces pièces, on se regarde soi-même d'un autre œil. Ainsi, il se moque des médecins ignares, des bourgeois qui veulent s'ennoblir, des faux dévots qui cherchent à diriger les familles, et aussi des avares, des barbons, de ceux qui laissent les filles dans l'ignorance, des femmes qui font trop des savantes ou les coquettes, des parasites, filles, la liste de ceux qui le détestent est sans fin. Michel siffla, impressionné. Cela fait du monde, pour sûr. Et il y a nos confrères des théâtres concurrents. Il nous querelle et cherche à débaucher nos comédiens, sans parler des auteurs. Tiens, ce Jean Racine que mentionnait Montfleury. Il nous a joué un sale tour, voilà, crois-moi. Il nous avait donné une pièce, Alexandre. Nous l'avons montée à grands frais. Et ne voilà-t-il pas qu'il l'a portée aussi à Montfleury? Deux troupes qui affichent la même pièce en même temps à Paris? Cela ne s'était encore jamais vu. Tout cela pour vous couler? Évidemment. Nous traitions pourtant Racine en ami. Il mangeait à notre table et plaisantait avec nous. Molière en a été si secoué qu'il est tombé gravement malade. Et Montfleury, Lagrange, main sur les hanches, soupira avant de raconter. Avant notre arrivée, il n'existait que deux grandes troupes à Paris, celle du Marais et celle de l'hôtel de Bourgogne. Molière, qui sillonnait la France avec un théâtre itinérant, a eu la chance d'être protégé par monsieur, le frère du roi. Grâce à lui, nous avons obtenu l'honneur de jouer devant Louis XIV. Il nous a beaucoup appréciés, au point de nous offrir de partager le palais royal avec les Italiens et de nous autoriser à porter le nom de troupe du roi. Il ne s'organise plus une fête à la cour sans nous. C'est magnifique. Seulement, reprit Lagrange, cette faveur royale a causé des jalousies. Avant, le roi ne suivait que les tragédies des deux autres théâtres ou les farces des Italiens qui jouent en italien. Avec nous, il s'amuse en français. Il apprécie aussi un nouveau genre de comédie que Molière a inventé avec le musicien Jean-Baptiste Lully. On appelle cela des comédies-ballets. Il s'agit de textes entrecoupés de chants et de danses où Sa Majesté elle-même ne rechigne pas à se mettre en scène. Montfleury est fou de rage devant notre réussite. Vous lui faites de l'ombre? Oui, sans compter que les gens du peuple viennent chez nous pour se distraire et non pour se fatiguer la cervelle avec des tragédies dont ils ne comprennent pas le premier mot. Mais revenons à Montfleury. Il n'a cessé de critiquer notre troupe, sans grand succès. Alors, il a diffamé le patron. Que voulez-vous dire? Il a fait courir le bruit que Molière avait épousé sa propre fille.
Quoi?
Parfaitement. Armande est beaucoup plus jeune que Madeleine. De là à imaginer qu'elle en est la fille et non la sœur, et que Madeleine et Molière ont commencé à jouer au théâtre ensemble, voilà plus de 20 ans, certains ont supposé qu'il était le père d'Armande. C'est ignoble. Mais diablement efficace, ricana Lagrange. Montfleury s'est empressé de répandre ce ragot ordurier jusqu'à écrire au roi pour que l'on emprisonne notre patron pour inceste. Par chance, Sa Majesté n'en a pas cru un mot, et afin de mettre un terme aux calomnies, il en est même devenu le parrain du fils de Molière et d'Armande, ce pauvre petit Louis qui n'a pas vécu. À présent, Michel comprenait l'agressivité qui régnait entre les deux hommes. Entre la trahison de Jean Racine, les machinations de Montfleury et la frivolité d'Armande, Molière avait de quoi tomber malade. « Jamais je ne travaillerai chez ce fourbe » s'écria-t-il. Lagrange hocha la tête avant de répliquer maussade. « Tu es doué. Les autres troupes l'ont constaté. Elles sont jalouses que le roi t'ait confié au palais royal. Je n'ose pas imaginer ce qu'elles vont manigancer pour t'enlever à nous. »